Bonjour. Donc, bienvenue à cette capsule spéciale d'introduction aux études documentaires. Dans le fond, vous avez le plan à côté, on va sauter au plan. C'est ce qu'on devrait voir dans cette présentation aujourd'hui. Il y a trois grandes sections. Donc, je vais essayer de faire trois vidéos séparées pour que ça soit plus facile pour moi à gérer. J'ai pas fait ça souvent, enregistré. Donc, je m'attends qu'il y ait des problèmes. Donc, on va essayer de faire des vidéos plus petites pour pouvoir les gérer. Et dans le fond, c'est une présentation qui a été faite dans le cadre du cours I9-41-50. Dans le fond, moi, je suis technicien de documentation de formation et j'étudie présentement l'informatique à l'UQAM au moment que j'enregistre cette vidéo-là. Donc, dans le cours, on a parlé, vous allez en entendre parler si ce n'est pas le cas, d'architecture d'information. Et dans le fond, on disait que c'était basé sur la bibliothéconomie. Et ben, étant donné que je suis technicien de documentation, je me dis que ce serait une bonne idée de partager l'information avec des informaticiens. Je me dis toujours que y a très peu de choses qui sont partagées entre les deux domaines, et des fois on fait tous les deux la même chose, mais de notre façon, de notre côté. Donc, s'il y a un partage, peut-être que effectivement y a des choses qui pourraient s'améliorer. Donc, c'est sûr que cette présentation-là est plus focusée pour des informaticiens. Vous allez voir les exemples sont puisés en informatique. Donc, si vous n'êtes pas informaticien, vous ne serez pas complètement perdu, mais juste dire, j'ai focusé mes exemples là-dessus. Donc, mais là, vous allez me demander, ben, à quoi ça sert d'apprendre ces choses-là? Ben, oui, ça peut aider à faire des architectures d'information, mais aussi dans les applications que vous utilisez, souvent il y a des menus et c'est dans le fond un plan de classement. Donc il y a une façon d'organiser l'information dans un menu pour que ce soit facilement accessible. Donc si vous connaissez comment les plans de classement sont faits, ben vous avez plus de chances de faire un menu qui est logique. Aussi, moi j'ai vécu un peu ça en documentation. Moi je travaille dans une hôpital psychiatrique, donc je connaissais rien en santé mentale. Donc il a fallu s'en prendre des années à essayer d'explorer un nouveau domaine que je connais pas. Donc l'utilisation de Thésaurus peut vous aider à explorer les différents concepts et terminologies du domaine, voir qu'est-ce qui est plus générique, plus spécifique, etc. Donc ça peut vous aider. Sinon, ben on va voir comment faire des structures de fichiers pour les documents administratifs. On a tous des documents administratifs, donc vous allez en avoir en gérer à un moment donné. Et aussi, depuis les dernières années, il y a beaucoup de catalogues en ligne. Donc, là, je parle ici de Steam puis Netflix pour les vidéos puis les jeux vidéo, mais il y en a plein. Là, on parle de toutes les plus là, Paramount Plus, Disney Plus, le catalogue Xbox ont un catalogue de jeux. Et souvent, c'est en tout cas, d'un point de vue bibliothéconomique, c'est très pauvre comme système. Donc, il y aurait des gains à faire, justement, en partageant plus d'informations avec ce qu'on fait en bibliothéconomie. Donc, maintenant, on parle de sciences d'information. À l'époque, la bibliothéconomie, c'était vu comme la gestion de livres. Et c'est souvent même, peut-être encore, vu comme la gestion de livres. Mais la raison pourquoi, c'est parce que ben toutes les connaissances avant l'arrivée d'Internet étaient dans des livres. Donc, on avait associé cette profession-là à la gestion du livre physique comme tel, mais dans le fond, on gérait de l'information. C'est juste qu'il y avait seulement un format. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a très peu de différence entre comment gérer du papier ou gérer de l'électronique. Oui, il n'y aura pas d'espace physique pour stocker ton électronique, ou du moins ça va être vraiment plus petit, mais les concepts de description, d'analyse sont les mêmes. Donc c'est pour ça qu'il y a encore plusieurs notions de bibliotechnie sont encore applicables aujourd'hui, puis je pense qu'avec toute l'informatisation qui est arrivée dans les 20-30 dernières années, il devrait y en avoir encore plus qui sont appliqués, mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, il existe beaucoup d'outils documentaires. Dans cette présentation, on va juste principalement voir les thésaurus, les systèmes de classification, puis quelques trucs complémentaires là, comme les cutters et les facettes. Mais c'est les principales qu'on va voir. Il y en a plein pour des usages différents. J'ai considéré que ça, c'est ce qui serait le plus pertinent. S'il y aura lieu d'en explorer d'autres, on le fera, mais présentement, c'est ce que je vois qui est plus pertinent, surtout par rapport à l'architecture de l'information. Donc, quand en bibliothèque, nous autres, si vous voulez, l'outil principal, la chose qui est, comme on pourrait dire, qu'on vénère tous les jours, c'est le catalogue. Donc, le catalogue, c'est un endroit qui répertorie tous les documents qu'il y a dans la collection. Donc, c'est comme ça qu'on peut tout faire, les inventaires, le suivi des prêts, sortir des statistiques, etc., etc. Originalement, c'était fait sur des fiches de carton. Donc, ceux qui ont déjà vu ça, peut-être ceux qui sont plus vieux ont déjà vu ça avant. Même moi, je trouve pas ça pratique, là. Aujourd'hui, c'est sûr que tout est informatisé. Mais sur ces fiches de carton-là, justement, on avait souvent trois accès, le titre, l'auteur et le sujet. Parce que dans le fond, ça, c'est la notion d'accès est vraiment importante parce que quand on cherche une information, on sait pas exactement qu'est-ce qu'on utilise pour aller chercher. Donc, ça se peut qu'on veut, genre, tous les livres d'un auteur spécifique. Donc, notre accès, c'est l'auteur. Mais peut-être que vous savez pas exactement ce que vous voulez, fait que vous cherchez un sujet en particulier. Donc, là, votre point d'accès, c'est un sujet. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs façons d'aller chercher l'information. C'est sûr qu'avec en informatique, vous faites la recherche plein texte, il va chercher dans le texte. Mais à l'origine, ça prenait différents points d'accès. Ces points d'accès-là sont encore là aujourd'hui. Il y a certains avantages de les garder, mais c'est sûr qu'avec la recherche plein texte, c'est beaucoup plus facile. Si les accès sont mal construits, c'est pas si pire. Donc, étant donné qu'il fallait passer par des fiches cartonnées, c'était quand même un peu chiant à faire. Donc, c'était logique de regrouper les documents physiquement sur les rayons en fonction de leur sujet. Donc, l'idée, c'est que si vous trouvez un document qui vous intéresse, mais les documents qui vont être autour de celui-là vont parler sensiblement de la même chose. Donc, ça, c'était l'objectif. Donc, c'est pour ça qu'on a fait des plans de classement qui donnent une cote pour justement classer le document sur le rayon. Et ces cotes-là s'apparentent à des sujets. Donc, c'est pour ça qu'il y a des structures hiérarchiques, là, on va les voir. Sinon, c'était possible aussi via les vedettes matières, qu'on va voir dans cette première partie-là, de mettre des sujets additionnels ou des sous-sujets pour qu'il va décrire mieux le document. Et la particularité des vedettes matières, c'est qu'on peut en avoir plus qu'une. Parce que le plan de classement et la cote, le document peut juste être un endroit à ses rayons. On peut pas le diviser et en moins qu'on ait plusieurs exemplaires. On peut juste le mettre à un seul endroit, mais on peut mettre autant de sujets ou de matières qu'on veut à un document pour justement faciliter tous ces trucs-là, c'est toujours faciliter la récupération du document. Donc on veut le rendre visible à l'utilisateur. Donc, ça, c'est un exemple de notice catalographique que j'ai pris dans Santécom, qui est le catalogue, on a fusionné les catalogues, maintenant on est avec eux. Donc, ça, c'est un des documents que j'ai où je travaille. Et c'est juste pour vous montrer un peu les différentes zones que l'information qu'il y a dedans. Je ne rentrerai pas sur comment faire une notice catalographique. Il y a des documents de plus de 1000 pages pour expliquer comment qu'on écrit cette information-là. Maintenant, ce que je veux porter attention, c'est la section sujet, donc où on voit multimédia interactif, enseignement assisté par ordinateur et apprentissage cognitif. Ça, dans le fond, c'est les vedettes matières. Donc, c'est ce qu'on va voir en première partie. Et dans la deuxième partie, en bas, vous avez une section cut où ce que vous voyez LB 1028.5 M468 M2021. Ça, c'est la cut du document. Donc, c'est le numéro d'identification qui est utilisé pour placer le document sur les rayons. Et l'indice de classification dans cette cut-là est basé sur un système de classification qui est organisé par sujet. Donc, c'est les deux portions qu'on va voir. Le reste, on s'en préoccupera pas. Vous pourrez peut-être, si vous avez des livres chez vous, regarder à l'intérieur, dans les premières pages ou derrière la page de titre, vous aurez un truc qui s'appelle le catalogage avant publication. Donc, ça, ce qui arrive, c'est que les éditeurs, avant de publier un livre, ils peuvent dire, regardez, j'ai ce livre-là qui va être publié, mais bientôt, peux-tu me faire le catalogage? Et moi, je vais l'imprimer dans mon document une fois que ça va être le moment de publier. Donc, il y a un certain travail qui peut être fait que vous pouvez retrouver. Là, ici, c'est la Library of Congress qui l'a fait. Vous avez les adresses pour retrouver justement les notices à la Library of Congress en bas. Donc, ça, c'est le même document qu'il y avait dans la slide précédente. Et il y a plein d'informations là-dedans que nous autres, ça facilite notre travail. Donc, entre autres, on a vu les trois sujets, ben vous les avez ici, ils sont en anglais. Computer Assisted Instruction, Interactive Multimedia and Cognitive Learning. Donc c'est les mêmes sujets, mais qui ont été traduits en français. Puis vous avez les codes de classement qu'on va voir. Bon, le LB 1028.5, c'est exactement la même chose qu'on avait dans le notice précédent. Donc ça peut être pratique. C'est juste prenez une couple de livres à la maison, regardez si vous voulez voir des exemples, ben vous ferez voir. Donc, on commence. Thésaurus et vedette matière. Donc, l'objectif des sujets, ben c'est faciliter la recherche des documents, surtout si les mots-clés sont pas présents dans le document ou dans la description du document. Donc, ça, c'est un problème courant. Le titre, oui, souvent, est dit de quoi le document parle, mais ça peut arriver que le document parle de quelque chose et cette chose-là n'apparaît pas dans le titre. Donc, quelqu'un qui chercherait des informations sur ce sujet-là, ben, il risquerait de pas tomber sur ce document-là puis il se ferait pas trouver. Donc, le sujet permet justement d'enrichir la notice et de faire en sorte que il va être plus facilement repérable. L'autre avantage avec l'informatisation, c'est que s'il y a plusieurs documents qui ont le même sujet, ben on va pouvoir, mettons, cliquer sur ce sujet-là et trouver tous les documents qui ont ce sujet-là. Donc, ça permet de rassembler les documents qui partagent le même sujet ensemble. Donc ça, même s'ils sont pas physiquement côte à côte sur les rayons, il y a quand même un lien pareil qui se fait entre ces documents-là. Et dans les sujets, c'est principalement, on dit de quoi parle dans le document, et non pas qu'est-ce que le document. Donc, un exemple, les romans n'ont pas de sujet, parce que, ben, ça parle pas de quelque chose. Oui, c'est une histoire, c'est un truc de fiction, à moins que c'est un roman historique qui fait par rapport à certains événements, puis que ça, c'est un sujet. Normalement, on mettra pas, par exemple, le sujet roman à un roman, parce que vous êtes tous les romans vont avoir le sujet roman. J'ai vu ça à BNQ, ils ont mis roman policier à tous les romans policiers, ce qui est totalement ridicule. Donc, généralement, à roman policier, on veut mettre les livres qui parlent des romans policiers, soit qui analysent les romans policiers, ou qui parlent comment écrire des romans policiers, ou des différents genres de romans policiers, mais on veut pas mettre les romans policiers avec ça. Nous, à l'Institut, on n'a pas beaucoup de romans, mais il y a certains romans que soit sont écrits par des personnes qui ont des maladies mentales ou soit qui parlent de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, on va mettre la maladie associée avec le roman parce qu'on se dit quelqu'un qui cherche l'information sur, les troubles bipolaires, ben, peut-être qu'un récit de quelqu'un qui est bipolaire, ça pourrait l'intéresser. Donc, les vedettes matières, il y a plusieurs types de vedettes. Donc, on a des noms de personnes. Ça, c'est vraiment comme je dis, personnage réel ou fictif. Donc, on peut mettre principalement ce qu'on veut. Donc, surtout les biographies, on pourrait mettre, disons, bon, le livre parle de, je sais pas de quoi, là, Céline Dion, ben, on va mettre Céline Dion en vedette de personne. Les noms de collectivités, ben, ça, c'est les organismes ou les associations, que, pour avoir un document qui parle de ce qu'une collectivité a fait, son histoire, etc. Les réunions, ça, c'est vraiment les événements, les colloques. Donc, une façon particulière de les écrire. Donc, entre autres, il faut mettre les dates et les lieux où a eu les réunions. Les termes chronologiques, c'est principalement un endroit dans le temps que les trucs se sont déroulés. Donc, soit un numéro de siècle, une année, etc. Une époque. Les noms géographiques, c'est dans le fond un endroit spécifique où les trucs se passent. Donc, par exemple, si on a un livre sur le hockey, mais on veut le hockey uniquement au Québec, mais on pourrait spécifier que ça se passe seulement au Québec, avec les noms géographiques. Et les sujets, qui est vraiment... C'est aussi de quoi ça parle, mais là, dans ce cas-ci, le sujet, c'est plus les connaissances. Donc, hockey, ici, est une connaissance. C'est un domaine de connaissance. C'est pas lié... oui, c'est lié, mais je sais pas... c'est pas quelque chose de chronologique, etc. Donc, il y a, pour les sujets, justement, de connaissance, il y a deux façons de le faire. Il y a les vocabulaires libres. Donc, l'avantage du vocabulaire libre, ben, c'est que t'as pas besoin de thésaurus. Tu peux faire, littéralement, ou presque, ce que tu veux. Il y a aucun coût associé à ça parce que t'as pas à acheter de thésaurus, puis ben t'as pas à consulter de thésaurus aussi, donc ça prend moins de temps. Il existe une plus ou moins une série de règles ou de lignes directrices pour justement éviter des confusions ou éviter des problèmes courants. Donc je me souviens d'un le fameux mot pêche. Est-ce qu'on parle vraiment de la pêche le fruit ou est-ce qu'on parle de la pêche le sport, aller à la pêche? Donc, on peut, ça c'est une des règles, mettre entre parenthèses pêche, entre parenthèses fruit, pour dire que c'est, on parle pas de pêcher du poisson, mais on parle du fruit, la pêche. Sur l'internet, c'est vu similaire à ce qu'on appelle du tagging. Donc, vous avez possiblement vu ça, les gens mettent un paquet de mots-clés sur des trucs, et justement, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent, parce que c'est du vocabulaire. L'avantage, c'est que ben ça s'adapte au nouveau sujet. Donc, s'il y a des nouvelles terminologies, s'il y a des nouveaux trucs in qui viennent d'arriver, ben t'as pas besoin d'avoir un comité qui va aller analyser dans quoi ça va se classer. On peut directement mettre le nouveau mot. L'inconvénient, c'est qu'on peut avoir plusieurs synonymes pour le même concept. Et là, ça c'est problématique parce que surtout quand on a vu tout à l'heure qu'on peut cliquer sur un sujet puis rassembler tous les documents du même sujet, ben s'il y a deux synonymes, puis mettons que sont distribués équitablement, mais on va seulement accéder à la moitié de ces documents-là. On n'accédera pas à l'ensemble de ces documents-là parce que il y a la moitié qui va être sur un sujet puis l'autre moitié qui va être sur un autre sujet. Donc ça c'est un problème. L'autre problème, c'est ce qu'on appelle l'incohérence en indexeur, ce qui veut dire que souvent c'est pas une personne qui va indexer les documents, surtout dans les grosses boîtes, il va y avoir plusieurs personnes qui vont le faire. Donc chaque personne peut le faire différemment, ce qui veut dire que la logique sera pas la même, puis on pourra avoir un travail qui fait qu'il y a certains documents qui auraient dû être repérés qui ne sont pas. Sinon, il y a les vocabulaires à contrôler. Donc, ça requiert un thésaurus ou plusieurs thésaurus. Il y a certaines bibliothèques qui prennent plusieurs thésaurus. Et dans le fond, in a nutshell, qu'est-ce que c'est un thésaurus? C'est une liste de mots qu'on accepte ou qu'on rejette. Donc, principalement, on dit le mot A, c'est pas bon. On veut pas que tu prennes le mot A, on veut que tu prennes le mot B. Donc, Il y a d'autres choses, on va le voir, mais c'est principalement la fonction principale du thésaurus. L'avantage, c'est que les termes vont être plus précis. Donc, il y a moins de chances d'avoir de confusion. Il y a un meilleur lien avec les documents, puisqu'il n'y a pas de synonyme. C'est plus complexe à utiliser. Donc, ça prend une certaine expertise que vous allez voir un peu dans ces slides-ci. Et donc, une des questions, Stack Overflow, c'est un vocabulaire libre ou c'est un vocabulaire contrôlé? Donc, vous avez un exemple de question sur Stack Overflow. Et comme vous voyez en dessous, on a des mots-clés. MySQL, SQL, PHP, MyAdmin, Laravel 8, je ne sais pas trop c'est quoi. Donc, c'est quoi? On a des mots. Donc, on dit, c'est comme un vocabulaire contrôlé. Mais c'est aussi un vocabulaire libre parce que il y a des nouveaux mots qui peuvent être créés sur mesure. C'est juste que c'est seulement les utilisateurs qui ont un certain niveau de notoriété qui peuvent créer des nouveaux mots. Donc, il n'y a pas vraiment de comité qui analyse le lexique puis qui détermine la façon de faire les choses. Tout le monde qui a la bonne notoriété peut acheter des nouveaux mots. Si vous n'avez pas la notoriété, vous êtes pris avec les mots qui sont là. Donc, c'est comme semi-contrôlé. Donc, ça, c'est un exemple que vous avez possiblement eu à dealer avec. Donc, des exemples de thésaurus. Selon la slide, un des plus vieux, c'est le Library of Congress Subjects Heading. Donc, Library of Congress, ça va revenir. Ils ont fait le système de classement aussi. Et ici, on a ce qu'on utilise, le répertoire vedette de l'Université Laval, qui est très calqué sur les Library of Congress Subject Heading. Ça a tellement à se demander si on peut juste traduire ce que le CHH a fait. Sinon, il y a des thésaurus spécialisés, donc dans un domaine d'expertise particulier, donc les MESH, Medical Subject Heading, qui sont faites par la National Library of Medicine. La National Library of Medicine sont très copains avec la Library of Congress. Donc, la logique d'utilisation des deux vont être très similaire. Un autre que j'avais au bureau, Eric, qui est un truc en éducation. On l'utilise plus vraiment, là. J'avais le livre au bureau, fait que je parlais. Ça pourrait être, on pourra en parler. Ce qu'on va voir ici plus en détail, c'est avec la RVM, parce que c'est ce qui est utilisé au Québec, au Canada, et deux, parce que moi j'ai les accès. Donc je vais pouvoir vous le montrer. LCSH, ce que j'ai appris, c'est qu'il est gratuit. Il est maintenant gratuit. Je sais qu'il y a des efforts pour rendre RVM gratuit, mais on n'a pas encore rendu là. Peut-être un jour ça va l'être, mais on n'est pas encore rendu là. Donc, pour le RVM, vous allez voir des abréviations ici. Toutes les thésaurus ont des abréviations. C'est juste, c'est pas les mêmes codes. Donc, LCHH, ils ont des codes différents, mais c'est les mêmes principes. Donc, une des choses à faire, c'est souvent aller voir la légende pour savoir qu'est-ce que les lettres veulent dire. Ici, on va voir ce que RVM veut dire. Mais comme je dis, les concepts sont transposables. Donc, EP, ici, c'est terme rejeté. Donc, qui veut dire employé pas. Donc, si vous voyez EP, qu'on dit que terme A et je peux prendre des vrais sujets, mettons qu'on a langage informatique puis langage de programmation, ben là on pourrait dire que langage informatique c'est le terme rejeté puis langage de programmation c'est le terme accepté. Donc si vous cherchez langage informatique, on va vous dire que c'est un terme rejeté, utilisé langage de programmation. Terme générique, terme spécifique. Ça, dans le fond, c'est que tout le thésaurus est organisé de façon hiérarchique. Donc, quand on veut monter dans la hiérarchie, donc on veut avoir des termes qui sont plus génériques, on va utiliser les termes génériques, et quand on veut descendre dans la hiérarchie, donc on veut un sujet qui est beaucoup plus précis, on va aller voir les termes spécifiques. Les termes associés, ça, c'est comme les termes qui sont sur le même niveau. Les voir aussi, c'est un peu relié. Donc ça, dans le fond, c'est comme quand vous cherchez quelque chose, puis on vous dit, ouais, mais c'est pas vraiment ça ce que je cherche, mais c'est pas nécessairement plus générique, plus spécifique. On peut vous dire, as-tu pensé aller voir tel truc? Ou il y a tel autre concept qui pourrait être similaire à ce que tu cherches, qui sont des termes acceptés. Mais c'est pas nécessairement un plus grand que l'autre ou un plus petit que l'autre. Non. On va voir les termes associés, les voir aussi dans ces catégories-là. Les termes équivalents, c'est principalement les traductions. Donc, les RBM, on va le voir, ils ont mis les termes LCSH, puis il y en a une couple d'autres, je pense que les mèches sont là-dedans. Donc, si vous faites chercher le terme en anglais de LCSH, ils vont vous trouver l'équivalent à RBM. Donc, ça, c'est vraiment pratique pour nous autres. Justement, le catalogage de ma publication, tout à l'heure, je peux juste prendre les sujets qui sont là, les mettre dans l'RBM, ils vont peut-être trouver les bonnes traductions. Et aussi, on peut retrouver la cote de classification. Donc, ça aussi, ça peut être pratique encore pour trouver, si on ne sait pas aussi dans le plan de classement, il faut le mettre. Ben, avec les sujets, on peut essayer de retrouver la cote. Un autre truc. Je sais que c'est un peu abstrait là, parce que là, j'ai pas montré l'exemple encore. Là, mais bon, je vais y arriver. Il y a ce qu'on appelle des subdivisions communes. Donc, ça arrive qu'il y a des concepts ou des sujets qui reviennent ou qui sont applicables à tous les sujets. Comme par exemple, si je prends l'idée de philosophie, ben, on peut parler de philosophie du hockey, de philosophie de langage de programmation, de philosophie d'instruments de musique, de philosophie d'à peu près n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des subdivisions communes pour au lieu de recréer ce qu'on a déjà fait, on peut utiliser des termes qui sont déjà là, puis qu'on peut les appliquer à plusieurs sources. La façon qu'on va procéder, c'est qu'on va séparer les termes avec des tirets. On a quatre catégories de subdivision qu'on va voir sur la prochaine slide. Puis, on peut utiliser plusieurs catégories si c'est nécessaire. Ça arrive comme un exemple de sujet avec subdivision. Ici, adolescent schizophrénie, tiret schizophrénie. Adolescent, c'est le sujet principal et schizophrénie, c'est la subdivision. Si vous cherchez dans le RVM, on va vous dire que ça, c'est le terme rejeté et que le terme accepté, c'est schizophrénie chez l'adolescent. Donc ici, on a deux concepts. On a le concept d'adolescent, on a le concept de schizophrénie. Il y a deux façons d'élever avec, deux, trois façons d'élever avec ça. Premièrement, on peut essayer des coordonnées comme ça. Ils peuvent nous dire, non, ça c'est pas bon. On va la pré-coordonner pour vous. Donc, il existe une vedette qui s'appelle schizophrénie chez l'adolescent. Dans le cas que les deux sont pas possibles, on peut faire deux sujets séparés parce qu'on peut mettre plusieurs sujets. Fait qu'on pourrait mettre adolescent tout seul puis schizophrénie tout seul. C'est sûr qu'au niveau de la recherche, c'est pas très convivial, parce que je disais, celui que c'est adolescent, tu vas trouver sur un paquet de livres qui portent sur l'adolescent, qui est pas vraiment assez précis. Mais bon, c'est une façon de le faire. Puis c'est ça. Fait que l'idée aussi, c'est qu'on va toujours indexer le plus précis possible, parce que justement, encore une fois, on veut associer les documents ensemble qui parlent de la même chose. Donc si, justement, je prends adolescent, des livres sur l'adolescence, il y a plein de choses sur l'adolescence. Donc, je veux peut-être pas lire les documents sur la schizophrénie à l'adolescent, sur la sexualité à l'adolescence, ou sur les maladies à l'adolescence, etc., etc. Donc, ici, je montre les quatre types de subdivisions qu'il y a dans le RVM. Donc, on a les subdivisions générales, qui est dans le fond d'autres sujets qui pourraient être associés au sujet principal. Donc ici, je donnais algorithme-conception et jeux vidéo-aspect psychologique. Donc, comme il faut voir, la notion de conception et la notion d'aspect psychologique, on peut l'appliquer à n'importe quoi. On peut appliquer l'aspect psychologique à du hockey, on peut l'aspect à la chanson, on peut l'appliquer, etc., etc. Donc, ça peut être utilisé. Géographique, dans le fond, là, on veut filtrer et seulement appliquer le sujet à un endroit géographique précis. Donc, on a vu que, justement, l'alphabétisation, c'est un problème. Donc, on veut parler d'alphabétisation, mais au Canada. On ne veut pas parler de l'alphabétisation dans le monde entier. On veut juste spécifiquement au Canada. Ou on veut parler de développeurs de jeux vidéo, mais seulement ce qui se fait au Québec. Donc, on peut spécifier la géographie de cette façon-là. Chronologique, dans le fond, là, on veut spécifier une période historique. Donc, donner l'exemple de stockage informatique, on veut l'histoire des stockages informatiques, mais seulement ce qui se fait au 21e siècle. Bon, informatique, ça commence au 20e siècle, mais peut-être qu'on dit que c'est trop archaïque ou nous, ça parle vraiment ce qui existe depuis les années 2000, donc on peut faire ça. Ou on parlait de musique de jeux vidéo, mais seulement ce qui s'était fait au 20e siècle, donc on veut de la musique rétro. Souvent, il y en a plus. On a inversé jeu, musique de, au lieu de musique de jeux vidéo. À l'époque, c'était fait pour les fiches cartonnées pour que, quand on cherche en ordre alphabétique, on trouve jeu avant musique parce que c'était ça qui était vraiment le terme recherché. Là, je suis surpris qu'ils l'ont gardé comme ça parce qu'avec l'informatisation, souvent, on va les mettre normal parce que on les va les mettre séparés parce que on a de la recherche plein texte. Et la forme, c'est peut-être plus pertinent quand on a un document spécifique. Ça serait un format de document. Donc ici, langage de programmation, guide et manuel. Donc guide et manuel, c'est un format spécifique de livre. C'est vraiment un document de référence qui va vraiment enseigner comment faire les choses. Donc guide et manuel, souvent c'est des gros livres. C'est supposé le format. Ou sécurité informatique périodique, ben là on dit oui, ça parle de sécurité informatique, mais c'est vraiment une revue ou un magazine en sécurité informatique. C'est pas un livre, c'est vraiment une revue. Donc je vais faire une petite démo. Dans le fond, c'est ici, ça c'est la recherche que je vais faire, jeu ordinateur avec l'étoile. Donc ça, c'est la RVM de l'Université de Laval. Comme je dis, ça prend un accès pour y avoir accès. Je vais chercher jeu ordinateur. Là, j'ai mis des étoiles à la fin. Ça, c'est de la troncature. Donc, c'est un opérateur de troncature. C'est l'équivalent en expression régulière au point étoile. Donc, il va chercher tout ce qui commence par jeu et il va compléter. Donc, il va trouver jeu avec X, pas de X. Ordinateur, encore une fois, il va trouver les singuliers et les pluriels. Donc, on va voir ce que ça va nous donner. OK. Donc, il m'a trouvé combien de résultats? OK, j'ai 25 résultats. Bon, c'est pas trop pire. Là, il y a deux formes de recherche. Là, j'ai fait la recherche en mots, en plein texte. C'est possible de faire la recherche avec l'index. Donc là, il va vraiment positionner, puis justement mettre des étoiles, ça sert à rien. Là. Il va vraiment positionner dans le thésaurus en ordre alphabétique où ce que le mot que tu cherches est placé. Donc, fait que là, on peut voir aussi, vous voyez, jeu de dames par ordinateur. Ça, c'est le terme rejeté. Puis dame électronique, ça, c'est le terme accepté. Un peu bizarre. C'est pas très convivial, dame électronique. Tu vois, ici, on va prendre celui-là. Jeu d'aventure sur ordinateur. Donc, là, on peut voir les fameux codes. Donc, EQ pour équivalent. Computer Adventure Games, il dit, ça vient du LCSH. Donc, si je veux savoir c'est quoi la traduction, ou si j'allais chercher Computer Adventure Game, il m'aurait trouvé cette notice-là. Employé pour, aventure jeu d'ordinateur, mais dans le fond, on me dit ça, c'est le terme rejeté, donc je devrais pas utiliser aventure jeu d'ordinateur, je devrais plutôt utiliser jeu d'aventure sur ordinateur. Terme générique, ben, jeu d'ordinateur, c'est le terme générique, jeu d'aventure, c'est le terme générique. Terme spécifique, Dwarf Fortress. Je connaissais pas ce jeu avant de faire cette présentation-là, donc je l'ai cherché. C'est un classique. C'est un jeu en mode texte qui s'est fait plus de 20 ans là, que c'est en développement. Fait que, en tout cas, vous irez voir. C'est assez drôle à aller voir. D'autres choses qu'on peut voir, comme ici, ben, subdivision de sujet, même subdivision de forme. Donc, on dit, jeu d'ordinateur pourrait être ajouté à d'autres sujets. Comme, je pourrais prendre, mettre hockey-jeu d'ordinateur. Donc, en fond, c'est pas juste le hockey en général, c'est des jeux de hockey. Sinon, bon, attends, les jeux sérieux. sont ici. Les autres, ils me disent quoi? Bon, ça, des fois, ils donnent des paragraphes de description. Donc, des fois, ils vont dire, bon, OK, on va trouver tel type d'occupant, mais on trouvera pas tel autre type de document. Donc, si ce que vous cherchez, ça parle plus de tel truc, allez à tel modèle. Si ça, ce que vous cherchez, ça parle plus de tel autre truc, allez à tel autre modèle. Ici, vous voyez, on a les indices de classement, donc GV puis LB. Donc, ça, c'est le classement de Library of Congress. Il y a plein d'employés pour, donc ça c'est tout des termes rejetés. Et bon, on a les termes génériques ici. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne avec Thesaurus. Là, c'est sûr que c'est plus facile parce qu'on peut faire de la recherche en plein texte. Les autres Thesaurus qu'on va voir, justement, ça sera pas si facile que ça. Donc ça, c'est juste des screenshots de ce qu'on vient de voir. Donc, ça c'est Library of Congress Object Settings, juste pour vous montrer un aperçu, j'ai cherché ordinateur. Donc ça c'est la version papier, en guillemets, genre c'est en PDF. C'est possible d'aller, vous avez l'adresse en bas. Il faut aller sur le site, télécharger toutes les tables, il n'y a pas de problème. C'est maintenant accessible gratuitement. Donc si vous voulez voir comment c'est organisé, là vous allez voir les abréviations, c'est pas les mêmes. Bon, BT puis UF, je sais pas c'est quoi, faudrait voir dans la légende. Use, ça veut dire que c'est un terme rejeté. Souvent, ce qu'on va mettre en gras, on va mettre les termes acceptés, puis en écriture normale, on va mettre les termes rejetés. Donc, on peut voir comme à Computer Algorithm qu'on voit l'indice de classification. Donc, ça, c'est intéressant. Puis vous allez voir, c'est très fortement inspiré. Les RVM s'inspirent fortement là-dessus. Donc même si vous avez dit ben on n'a pas accès au RVM, vous avez quasiment accès au même compte. Ça, c'est Medical Subjects Heading. Ça, c'est un autre thesaurus qui est spécifié dans le domaine médical. Ce qui est intéressant à montrer ici, c'est la hiérarchie. Donc justement, on parlait de termes génériques et de termes spécifiques, mais ici on peut bien le voir. Donc, on peut voir que Computer Peripheral, c'est un terme spécifique à Computers. Puis que, mettons, Computer System, c'est un terme générique à Computers. Donc, ici, on voit très bien. Encore une fois, ça, c'est sur Internet, vous avez l'adresse en bas. Vous cherchez les termes. Puis, quand vous allez dans Mesh Tree Structure, vous pouvez voir la structure des mots. Donc, ça aussi, c'est très intéressant pour, si vous voulez explorer un domaine de connaissances, puis vous voulez savoir où sont situés les termes, ben, c'est une façon d'explorer le domaine. Ça, c'est un exemple d'Eric. Encore une fois, je vais te donner un autre exemple. C'est le même principe. Donc, c'est ça. Donc, les problèmes d'indexation. Bon, c'est pas parfait, l'indexation. Donc, on peut parler d'incohérence entre indexeurs. Donc, il peut y en avoir quand même dans les thésaurus. On peut être trop exhaustif, donc mettre trop de termes. Des fois, il peut avoir un avantage de ça. Des fois, on peut prendre chacun des chapitres puis associer un sujet à ce chapitre-là. Ou des fois, on peut être trop vague, trop générique. Donc, encore une fois, avec mes adolescents tout à l'heure, on pourrait être vraiment dans le champ puis pour trouver une information. L'autre problème, la terminologie pourrait être de pas à jour. Ça, je te dirais, c'est le problème de la bibliothéconomie. On va reparler avec les plans de classement tout à l'heure. C'est pas nécessairement toujours à jour. Donc, par exemple, nous autres, le terme accepté, c'est neuroleptique, et le terme rejeté, c'est antipsychotique. Cependant, tu parlais à un psychiatre de neuroleptique, je suis pas sûr qui sait de quoi tu parles. Donc, on utilise dans le langage courant antipsychotique. Donc, pourquoi un est accepté plutôt que l'autre, je sais pas. Peut-être qu'il va falloir faire des demandes pour le faire changer. Mais des fois, ça prend du temps avant que les médications se ferment. L'autre problème, des fois aussi, c'est qu'on peut mettre des termes sans valeur. Comme j'ai vu souvent ça dans plusieurs bibliothèques, genre que pour un roman, il va mettre personnage. Ben, en tout cas, si vous trouvez un roman qui a pas de personnage, je serais curieux de voir qu'est-ce que c'est, parce que moi, tous les romans que j'ai lus présentement, il y a des personnages. Peu importe que le personnage soit un robot ou un extraterrestre, c'est un personnage pareil. Donc, de mettre personnage dans un roman, non seulement bon, on n'a pas de sujet à des romans, mais ça n'a aucune valeur. C'est comme de dire, mettre le sujet livre à un livre. Je disais, tous les livres de la bibliothèque vont avoir le sujet livre. Ça fait pas de sens. Donc, ça n'apporte rien. Ça facilite pas la recherche. Donc, ça, c'est un problème qui peut arriver à l'indexation. Donc, je finis cette partie-là. Je vais arrêter et je vais faire la deuxième partie dans une autre vidéo.